Good Vibes. Good Vibes. Bienvenue sur Good Vibes, l'émission des lycéens de Charente-Maritime diffusée sur Radio Collège 95.9. Au programme des podcasts et interviews sur des sujets faits par les jeunes et pour les jeunes.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette 8e émission Good Vibes sur Radio Collège. Pour commencer, je tenais à remercier tous nos contributeurs pour leur travail acharné de qualité. Et bien sûr, merci à tous les auditeurs. Au programme aujourd'hui, une chronique cinéphile du lycée Saint-Exupéry sur le film The Truman Show. 4 chroniques pour le lycée Vielleux. La première, Come As You Are, par Sergeant Pepper et Lullaby, sur le sujet Midwest Emo. Cassien nous a préparé une chronique sur le facteur humain. Et cette semaine, Ethan, toujours du lycée Vielleux, nous prépare un poème, Sérénade. Le docteur Apocalypse va nous présenter 2 chroniques de l'Apocalypse. La première sur le livre I've No Mouth and I Must Scream. La deuxième sur la série de science-fiction L'Éternaute. Il a aussi trouvé le temps de réaliser une interview de l'artiste Moufadim du lycée Saint-Exupéry qui se produira au festival Lycéo à La Sirène le vendredi 5 juin prochain. Venez nombreux. À suivre, un making-of du lycée Vielleux sur l'ensemble de leur production cette année. Nous finirons par le lycée Dautet avec un poème et un retour des élèves sur une exposition qui a été présentée au lycée lors de la Journée des Fiertés. Et n'oubliez pas, si vous voulez réécouter l'émission, allez sur le site radiocollège.fr, émission Good Vibes. Allez, j'en dis pas plus, on perd pas de temps, on va démarrer. Bonne émission.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Bienvenue dans la chronique des cinéphiles. Aujourd'hui, je suis en présence de Tom.
Bonjour, bonjour.
Aujourd'hui, nous parlerons du film The Truman Show. Sorti en 1998 et réalisé par Peter Weir, où l'acteur principal est Jim Carrey, qu'on a notamment vu à la remise des Césars. Il interprète le rôle de Truman. Et l'antagoniste de cette œuvre est Christophe, incarné par Ed Harris. L'histoire nous raconte qu'un homme, Truman, vivant une vie parfaite à Seven, une ville sans problème. Il a une femme, un meilleur ami d'enfance, mais Truman ignore que cette ville n'est qu'un décor de cinéma gigantesque. Depuis sa naissance, chaque seconde de sa vie est filmée et diffusée en direct dans le monde entier, et que son entourage ne sont que des comédiens, et que la météo est également contrôlée par une régie.
Le film Truman Show est un film qui fait réfléchir sur de nombreux sujets. La surveillance, le mensonge et l'immoralité. En effet, la surveillance est le thème le plus présent dans le Truman Show et a fait réfléchir de nombreux spectateurs après leur visionnage du film. Intrinsèquement, le mensonge est lié à la surveillance, car les spectateurs qui jouent un personnage dans la vie de Truman lui ont pratiquement tous menti. Nous pouvons finalement nous poser la question. L'appât du gain serait-il si fort qu'une vraie entreprise pourrait-elle envisager une action aussi immorale que d'enfermer quelqu'un dans une fausse vie privé de sa liberté? Qu'en penses-tu, Gio?
Je pense tout d'abord que ce serait contraire aux valeurs de notre société actuelle, en particulier le respect de la liberté individuelle et de la vie privée. Imposer une telle mise en scène à une personne sans son consentement serait moralement intolérable. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée.
Et de même pour moi, passer une excellente journée, chers cinéphiles.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Bonjour et bienvenue dans Come As You Are,
l'émission pour briller auprès de ton oncle fan de musique en repas de famille.
Moi c'est Sergeant Pepper.
Et moi Lullaby. Et pour notre 8e épisode, on va parler du Midwest Emo.
Et pour parler du Midwest Emo, il faut d'abord qu'on parle du Midwest. Alors le Midwest, c'est cette région du nord des États-Unis. Trop loin de la côte ouest, trop loin de la côte est, remplie de quartiers résidentiels et d'usines désaffectées. De grandes villes monotones et de campagnes industrielles, souvent décrites par ses habitants comme plates, voire parfois déprimantes. C'est donc peu étonnant que le début de la popularisation du genre emo dans les années 90 parle aux habitants du Midwest et qu'on voit émerger beaucoup de groupes du genre dans cette région. Mais là où de nombreux groupes emo prennent des sonorités puisées dans le punk et le hard rock en adoptant un son puissant, ceux du Midwest gardent cette idée mais en ayant un style musical souvent plus doux. Ce son spécifique mêlant expression de la souffrance caractéristique du genre emo et des mélodies de guitare clean commencent à plaire. et le genre se répandra à travers les États-Unis avec des groupes comme Sunny Day Real Estate ou American Football que vous connaissez sûrement grâce à l'intro de Nevermind. Le genre gagnant en popularité, les nouveaux groupes qui émergent ne viennent plus seulement du Midwest mais de tout le territoire. Et c'est parallèlement à ce moment-là que naît le terme Midwest Emo. Le genre qui a connu un pic de succès à la fin des années 90, s'amenuit en 2000.
Et donc ça s'est arrêté là ?
Mais le Midwest Emo n'a pas disparu pour autant, et renaîtra un peu avant les années 2010, avec une nouvelle vague de groupes comme Tiger Joe ou Snowwing. Le genre évolue alors et se diversifie, puisque les groupes mêlent parfois le Midwest Emo avec des sonorités d'autres genres, ou en revenant à des sonorités plus proches des origines hard rock par exemple. Aujourd'hui, le Midwest Emo est toujours une culture underground assez populaire, notamment grâce aux réseaux sociaux qui permettent non seulement aux petits groupes de se faire connaître, mais aussi au genre en lui-même, puisque le Midwest Emo est par exemple devenu un mème sur internet.
Où les paroles simplistes du genre sont souvent moquées.
Et avec des tonnes de vidéos de gens qui jouent des airs de Midwest Emo par-dessus des extraits de dessins animés pour les rendre mélancoliques. Et ça marche. Plein de gens découvrent le genre comme ça, dont moi d'ailleurs.
Tu as parlé de guitare clean dans le style, tu peux en dire plus ?
Du côté purement musical, on retrouve souvent une guitare, avec un son plutôt clean qui joue des arpèges. Une place importante laissée à la basse et à la batterie, fréquemment une guitare avec un son plus saturé qui revient pendant les refrains puis s'arrête soudainement. Et du côté du chant, on retrouve tantôt des voix claires et justes, tantôt des voix cassées qui crient. Le tout forme une espèce de cohabitation entre de la musique hardcore et douce, à la fois violente et apaisante, avec souvent des enregistrements de basse qualité dus au petit budget des groupes.
Et du côté paroles, ça donne quoi ?
Pour ce qui est de l'écriture, on reste fidèle au genre emo. On est souvent sur l'expression de la douleur, de l'anxiété, de l'ennui. Mais sans chercher le théâtral, ça reste très authentique et direct. C'est des thèmes de la vie de tous les jours, et ça se voit tant dans les paroles que dans le nom des groupes et des musiques. C'est souvent des éléments banals qui sont repris, ce qui revient à la présentation du Midwest faite plus tôt. Et c'est pour ça que le Midwest Emo parle à autant de gens, ça raconte la vie de tous les jours. Et je laisse maintenant la parole à Lullaby qui va nous présenter un album emblématique du Midwest Emo.
On va parler du groupe American Football et de leur premier album du même nom. Tout commence à l'université avec un duo d'amis qui partagent une passion pour la musique. Kinsella, le futur chanteur-guitariste, et Lamos, le futur batteur et trompettiste. Ils sont dans un groupe appelé Cap and Jazz, qui, comme le nom l'indique, pas du tout, font du rock punk un peu bizarre. Mais les deux musiciens se lassent de ce groupe et décident de former un nouveau groupe, avec un ami de lycée du chanteur, Holmes. C'est ainsi qu'est créé en 1997 le nouveau groupe American Football. Un an après la formation du groupe, ils vont sortir leur premier EP appelé American Football.
On sent l'inspiration pour le nom.
On peut voir l'EP comme une liaison entre la musique du groupe précédent du chanteur et du batteur et la musique qu'ils feront par la suite. C'est un peu plus violent, mais on retrouve déjà pas mal d'éléments qu'on trouvera plus tard. C'est en 1999, donc encore une fois seulement un an après la sortie de leur premier EP, que leur premier album sort. Et qui s'appelle, vous avez jamais deviné, American Football.
Mais non, hasard de dingue.
L'album a été fait en seulement 4 jours, car tous les membres étaient encore étudiants et n'avaient donc pas beaucoup de temps pour la musique. Les musiques sont très spontanées et assez simples. Les paroles sont plutôt tristes et n'importe qui peut se reconnaître. Des fois, les paroles sont même plutôt aléatoires. Juin paraît en retard, ce qui accentue le côté spontané de la musique. Niveau instruments, on a de la guitare et de la batterie, pas de basse étonnamment, mais aussi de la trompette qui ajoute de l'originalité. Aujourd'hui, l'album est considéré emblématique du style emo, Midwest emo, et le niveau des musiciens est impressionnant pour leur âge. Sur le moment, le groupe a un petit succès local, mais rien d'impressionnant. Chacun est parti continuer sa vie à différents endroits, et le groupe va donc s'arrêter. Mais c'est pour les 15 ans de l'album, en 2014, que le groupe se réunit pour l'anniversaire de leur album, et ressort une nouvelle version en vinyle. C'est là que l'album explose. Le groupe se reforme, et donc par la suite, ils vont sortir deux autres albums. American Football 2 et American Football 3.
Qui l'eût cru ? C'était le 8e épisode de Come As You Are.
Comme d'habitude, on se dit à dans 2 semaines pour un épisode sur...
un style musical et un album. On n'a pas encore trouvé le prochain thème.
D'ici là, portez-vous bien.
Et comme le disent American Football, honestly
I can't remember.
C'est ça la phrase.
Oui.
Cette chronique est doublée en langue des signes par l'Association des Manchots de France.
Bonjour à tous, c'est Cassien du Séville Jeu et dans cette série de 3 chroniques, je vous parle du problème principal de l'informatique, le facteur humain. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le fait que l'humain est une faille de sécurité. Déjà, sans humain, personne ne voudrait hacker. Mais en plus, c'est l'humain qui choisit le mot de passe. Et ça, c'est super important. Par exemple, lors de l'enquête au Louvre qui a suivi le braquage, on s'est rendu compte que le mot de passe de la sécurité était littéralement Louvre. Bon, on n'est pas sûr, mais ils en sont capables. Et ne vous voilez pas la face, hein. C'est pas parce que vous avez mis un arrobase après votre date de naissance que votre mot de passe est plus compliqué. Mais imaginez qu'un humain veuille attaquer une banque. Quelle est la meilleure façon ? Faire exploser la porte blindée ou menacer le mec devant pour qu'il t'ouvre ? Eh ben le hacking, ça peut marcher pareil. S'attaquer aux sécurités d'un serveur, c'est très dur et très long. Mais connaître le mot de passe de quelqu'un, c'est bien plus simple. Il suffit à un hacker de choisir sa victime, par exemple via les réseaux, afin de connaître ses centres d'intérêt. Ensuite, on lui envoie un mail personnalisé avec une fausse page de connexion et boum, on a le mot de passe. Et aujourd'hui, surtout avec les IA, c'est si simple de faire une fausse page de connexion. Faites vraiment attention aux liens qu'on vous envoie. Mais le pire, c'est ce qu'on appelle la fraude au président. Le concept est simple, se faire passer pour le boss de la boîte et demander à la compta que l'argent soit viré sur un autre compte bancaire. Simple, rapide, efficace. Et plein de gens sont à voir. En 2019, une entreprise au Royaume-Uni a transféré environ 220 000 euros après un appel imitant la voix du dirigeant de la maison mère allemande. Parce qu'en plus, maintenant, il existe des IA qui permettent de cloner une voix. Encore une fois, faites très attention parce que la principale faiblesse dans un système de sécurité, ça reste l'humain. En tout cas, moi, tant que personne ne hack mon compte Google dont le mot de passe est
Chronique,
je me porte bien. A plus.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Ô belle dame, de vos longs cheveux noirs profonds qui s'écoulent sur le marbre fin de votre balcon, et visibles par réfraction, vos yeux d'un simple marron clair, rudes comme la pierre, mais qui cachent en leur fond la passion d'une femme nichée sur ses talons. Et au travers de la lumière, dans le domaine des ondes, votre voix atteint mon cœur, mimique une sonde. Le son, si beau soit-il, ne peut se répandre dans le vide qui sépare nos positions. Mais moi, caché sous votre balcon, je parie sur ma victoire. Ma main droite sur le rouge, gauche sur le noir, mon cœur placé sur le sixième cheval. Alors je tente, fou comme je suis. Seuls mes mots comptent, je n'ai ni mon visage, ni mon honneur moribonde, qui, de toute manière, serait inutile à votre conquête si difficile que je m'apprête pourtant à réussir. Oui, je suis confiant, loin d'être beau, encore moins attirant, mais de ma bouche sort des mots que ma maîtrise façonne en petits diamants, vert jaune dispersé dans ce grand champ de jonquilles, où en son centre se lève la plus grande et la plus belle de toutes, la mienne. Ô belle dame, en ce soir de pleine lune, en conclusion de cette sérénade, laissez-moi vous poser une dernière question. Puis-je vous cueillir ?
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Bonjour à tous nos auditeurs, je suis le docteur Apocalypse et bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'Apocalypse. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons vous présenter une œuvre sur un autre format que ce que nous avons l'habituel de vous présenter, comme le grand écran ou la télévision. Je parle du format papier. L'œuvre que je vais vous présenter est le livre « I have no mouse and I must scream ». I Have No Mouse and I Must Scream est une nouvelle de science-fiction dystopique de l'auteur Harlan Ellison. C'est une nouvelle d'horreur psychologique. I Have No Mouse and I Must Scream nous conte l'aventure d'un groupe d'humains qui sont les derniers représentants de l'espèce humaine, gardés en vie par Ham, l'IA qui a tué le reste de l'humanité, et garde ce groupe comme défouloir et les torture psychologiquement et physiquement. Et pour vous montrer la haine qu'il porte à l'humanité, je vais vous laisser avec une de ses tirades où il parle justement de sa haine contre l'humanité.
Laisse-moi te dire à quel point je suis venu à te haïr depuis ma naissance. Il y a 387 millions de circuits imprimés qui me composent. Si la haine est gravée sur chaque micromètre de ces millions de miles, ça n'équivaudrait même pas une once de la haine que j'ai envers les humains à ce micro-instant.
Cet extrait vient d'une vidéo du youtubeur PicoDub. Je vous invite à voir la vidéo originale sur sa chaîne YouTube. Eh bien, chers auditeurs, je vous souhaite de passer une bonne apocalypse. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique de l'apocalypse.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
bonjour à tous nos auditeurs. C'est Docteur Apocalypse pour une interview à l'ICO avec...
Moufadil.
Alors, Moufadim, j'avais une question. Quel genre de musique fais-tu ?
Et je fais du rap mélodieux.
Très bien. Et depuis combien de temps fais-tu du rap mélodieux ?
J'ai commencé il y a 2 ans.
2 ans ? Oh, c'est...
Et 2 ans en arrière, ouais.
Trop bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire l'ICO ?
Moi, je voulais parler un peu de mon art, quoi. Genre aux yeux des autres. Tu vois, c'est un peu ça, quoi.
Ok. Ouais. C'est trop bien. Tu peux lui donner une précision ? Quand a lieu l'ICO exactement ?
Le 5 juin 2026 à La Sirène.
Ah, ça, c'est cool. Ouais. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra pour te voir chanter, ouais, surtout pour t'entendre.
Ouais, ouais, Inch'Allah.
Est-ce que tu écris tes propres chansons, du coup ?
Oui, oui.
C'est fantastique. Ouais. Tu peux nous en faire écouter une ?
Oui, oui, sans problème.
Merci beaucoup.
De rien. MKM. Tout de la night, j'fais que penser à ma life. Trop de cash, trop de blé, j'dois me préparer à beaucoup d'attaques. Venant des ondes, peur de la victoire, car y'a trop de jaloux autour de moi. J'dois faire gaffe et avancer tout doucement. Posé dans le bloc, le risque là en main. J'fais tout des mythos de rater, si vois pas les allures. J'suis un nigga tous de ma posture. Les nuits à Panama veulent m'allumer. Elle dit que j'ai un lumière pour t'arriver à dominer. Elle veut la mouche, un plan enflammé. Peu importe. Ce soir, c'est moi qui vais guider. Oh Midan, oh Midan. Ne me laisse pas partir, le risque la pu, je roule mes délits. Hey, c'est la mouche des désirs. Dis-moi avant que je perde le fil. Depuis un bon moment, les chiffres explosent. Pour la bonne train, les potes se causent. Ils veulent mon vibe, ils veulent ma douce. Mais je contrôle ma honte. C'est moi qui impose. Elle dit que la fête en veut comme Jericho. Une vibe sur qu'elle en paix, c'est bon. Tu veux tout bruit sans finir décor. Un vrai inga dans les flots de Russon. Tous les rats braqués, ils testent ma vibe. Mais je suis horizon. Pas de passe pour le wifi. Et chaque critique font devant mes lyrics vives. Trop réel pour eux, je laisse dans les délits. Et oh mes dents, oh mes dents. Ne me laisse pas partir, le risque la pu. Je roule mes délits, eux c'est la mouche des désirs. Dis-moi avant que je perde le fil. Oh mes dents, pour authentique sans compromis. Ma vraie nigga, la rue m'a choisi. Du risque là au sommet, la vibe est fine. Si c'est pas l'amour, qu'elle me le dise ici.
C'était incroyable. J'espère que nos auditeurs ont autant adoré que moi.
Ok, mais merci beaucoup.
Non, franchement, je suis content que tu sois venu du coup.
Merci pour la proposition. Merci beaucoup.
Non, mais de rien. Ouais. Je suis content que tu fasses l'ICO.
Merci aussi.
De rien. Ouais. Bon, je pense qu'on va vous dire au revoir, chers auditeurs. Passez une bonne fin d'année, enfin une bonne fin d'année scolaire. Et au revoir.
Au revoir.
Bien le bonjour à tous nos auditeurs, c'est Docteur Apocalypse pour cette nouvelle chronique de l'Apocalypse. Aujourd'hui, dans la chronique de l'Apocalypse, nous allons vous présenter L'Eterno. C'est une série de science-fiction réalisée par Bruno Stagnero et a comme acteurs principaux Ricardo Darín, Carla Peterson, César Trencoso, Andrea Pietra, Ariel Stalfari, Marcelo Subioto. L'Eterno a été produit par K&S Film et Netflix, et a été distribué par Netflix. Maintenant, laissez-moi vous raconter le synopsis. Une tempête de neige toxique tombe soudainement sur Buenos Aires, en Argentine, tuant presque tout le monde en quelques heures. Nous suivons Juan Salvo, vétéran qui se prépare à survivre à cette neige toxique avec ses amis, et fabrique des combinaisons pour se protéger de cette dite neige.
et ensuite part à la recherche de matériel utile. Au fil de cette série, vous découvrirez que cette neige n'est pas d'origine naturelle et encore moins humaine. Je vous recommande fortement d'aller voir l'Éternaute, car c'est vraiment une série tournée sur le mystère de cette dite neige qui est vraiment omniprésente dans la série, et également sur ses causes. Mais surtout, l'angoisse est omniprésente et les défis auxquels seront confrontés nos héros sont vraiment terrifiants. Eh bien, au revoir, chers auditeurs. C'était tout pour cette chronique de l'Apocalypse et à une prochaine fois pour toujours plus d'Apocalypse.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Here's one for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again. I'm not the only one. I'm not the only one. Hate me. I'm not the only one. My favorite inside sores. I'll kiss your open sores. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. Rape me, my friend. Ow, rape me. Rape me again.
Ils sont bégayés tous les deux et qu'on en a plus d'honneur.
Les chaussettes de l'artiste du chèche, on chèche, archi chèche.
Je vais arriver.
Gunther.
Gunther. Ça...
Autant que ce ça.
Pas d'accent.
Si.
Ça faisait partie de la blague. Ça faisait partie de la blague.
Un très bon accent. Si.
C'était. Ça faisait partie de la blague.
Ça tourne encore ou pas?
Les routes, les voies.
Essaye de parler plus lentement.
Oui, mais je viens de voir qu'il y a un problème d'écriture.
En
je vais arriver.
J'arrive pas à respirer.
Comment tu vas?
A wall is a hole of. Je vais. The world is of a lot better than a world.
Ça tourne encore ou pas?
Pour l'instant, il n'y a pas de philosophie, donc ça va. En fait, j'ai pris une définition qui est sur Google.
Le lecteur philosophe.
Le lecteur philo.
Ses réflexions sur les grandes philosophies. Sur les grandes philosophies.
Oh oui, même là, c'est bon.
C'est des chips au vinaigre. Mais viens, on va les brûler.
Non, je sais pas.
Non, c'est pas des chips au vinaigre. Viens, on va au Lidl, c'est des chips au vinaigre.
Oh, en plus, y'a des enfants.
J'ai dit quoi, bizarrement? Faut que je relise mon texte. Oui, c'est que j'ai mis une virgule alors qu'il y avait pas de virgule.
Ah, ok.
Et dans notre 5e. C'est pas français, la phrase, attends. Est-ce que genre... Ah, si.
Si, je crois que c'est bon.
Non, c'est bon.
Année 70. Non, je vais entendre ma voix.
Dans mon Dutch.
Elle veut pas dire ma phrase.
Non, c'est que t'as dit mettre au lieu de prendre.
Là, je m'entends.
Bah.
C'est ça le problème depuis le début, c'est qu'il t'augmente toi au lieu de moi.
Mais.
C'est pour ça que j'entends des rayons.
Ces ingés sont en carton.
Là, je m'entends.
Ils sont deux en plus.
Ils sont deux et ils sont pas capables de porter le bon micro. Après mardi, j'avais pas physique chimie et ça, c'est la meilleure nouvelle au monde.
J'aime bien voir les proches des micros, je sais pas si vous savez.
C'est ça le bassin, merde. Tout le temps, tu fais vos gueules, tu refermes.
Est-ce que vous pouvez un peu la fermer, merci.
Le lecteur philosophe.
Le lecteur philosophe.
Ses réflexions sur les grandes philosophies. Sur les grandes philosophies.
Oh oui, même là c'est vrai.
Est-ce que vous pouvez la fermer, merci?
Maintenant faut que t'arrêtes de respirer et que tu parles plus vite. Là ce sera nickel.
Putain, ça marche.
Salut à tous.
Merde.
Eh ben le King. Ta gueule.
Ouah, tu peux refaire la phrase.
Je peux enregistrer, s'il te plaît. On se retrouve alors devant un. Ça va être long.
La chute du mur de Berlin.
Ah putain. Qu'une fausse passe. Le carré. Pas, ils ont des. Putain. Ça pousse. Des principaux bugs sont. Tu coupes
un max d'énergie. Le lecteur philosophe. Ses réflexions sur les grandes philosophies. Sur les grandes philosophies.
Oh oui, même là c'est vrai. De l'auteur, de son parcours, du contexte où il a. Oh, contexte où il ou elle. Non, ça va pas en fait. Parler de le. Oh, bon. Ok.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Garçon, j'ai toujours préféré embrasser une fille qui pour moi faiblissait, là où l'homme se laissait juste glisser, sans rien apprécier, il me touchait. Ce goût amer, ce sentiment de ne pas lui appartenir. Tes lèvres sont uniques et me font tout ressentir. La façon dont ta main trouve mon cou, sans pour autant descendre trop en dessous. Tu es plus belle, plus douce. Ce sourire entre nos lèvres qui s'entremêlent, tu t'accroches, comme si j'étais un cadeau, trop précieux pour être laissé à un Roméo. Délicate, tu aimais m'embrasser, tout comme moi j'appréciais, pour toi, tout laisser. Tu es là pour moi, quand le masculin décide qu'il est préférable d'être invincible. Tu ne demandes rien de plus, rien de moins. Juliette, tu te contentes de ce que je t'offre, avec soin. Embrasser un homme n'a jamais été plus qu'un simple rien que je veux comme disparu. Pour être honnête, la première fois que je t'ai embrassée, j'ai simplement senti une larme couler. J'étais heureuse de t'avoir à mes côtés, ici et nulle part ailleurs je veux rester. Cette vérité, j'ai du mal à l'accepter. Tout comme toi, Roméo, tu n'as juste pas tilté. Mon envie de t'aimer n'existe plus. Avec elle, un sens nouveau est apparu.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Bonjour. Dans le cadre de la Journée des Fiertés, une exposition a été installée au lycée Jean Dauté. Voici le retour des élèves sur celle-ci.
Bonjour.
Bonjour, du coup, tu as pu voir l'exposition. Est-ce que déjà tu connaissais des choses avant et qu'est-ce que tu as appris sur ce sujet ?
Donc moi je connaissais Stonewall de nom et pas vraiment le contexte précis, mais du coup j'ai pu apprendre que la culture queer était visible pour les premières fois dans les grandes métropoles américaines, donc notamment San Francisco. Donc ce qui a entraîné cette permissivité sexuelle était le développement rapide depuis la ruée vers l'or de 1948, ce qui a apporté un mélange de cultures importants, donc mexicaines, chiliennes et américaines. Et l'esprit d'entreprise a permis une grande liberté et tolérance. Et l'économie du plaisir s'est développée avec l'alcool, des spectacles burlesques, le travestisme et la prostitution. Et c'est comme ça que vont émerger des lieux comme le Monas 440, qui est le premier nightclub lesbien de San Francisco. Donc sa créatrice, Mona Sargent, va ouvrir alors la voie à une vingtaine d'autres nightclubs lesbiens à San Francisco entre 1946 et 1960. Cependant, j'ai aussi appris que c'est en 1951 que San Francisco va connaître un tournant plutôt conservateur, surtout avec l'élection d'un nouveau maire, George Christopher, qui lui est très religieux et moralisateur. Il va alors imposer la fermeture de plusieurs bars de nuit. De plus, la présence de l'armée sur place pendant la Seconde Guerre mondiale permet aux différentes administrations de mieux coordonner leurs efforts pour lutter contre le crime et pour mieux réprimer les libertés.
Ok, merci beaucoup. Hello, du coup, toi aussi, tu as pu voir l'exposition. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et dont tu te souviens ?
Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout les premiers accidents avec la police qui ont été couverts par la presse. Il y en a plusieurs à San Francisco qui sont arrivés, comme le 1er janvier 1965. Il y a un bal qui a été organisé par 6 associations homophiles et qui voulaient reverser les fonds au CRH, le Council on Religion and the Homosexual. C'est pour que les homosexuels soient acceptés à l'église. Donc les autorités ont été prévenues, même si ils voulaient faire un bal pacifiste. Mais ils ont décidé d'encercler le hall et de menacer les gens qui rentraient. Ils ont été refusés de rentrer parce qu'ils n'avaient pas le mandat. Mais ils ont quand même continué d'harceler et de photographier durant toute la soirée les gens qui ont assisté au bal. Mais malgré tous ces problèmes, 600 personnes ont assisté au bal. Ils sont ensuite allés en justice et ils ont été déclarés non coupables. À San Francisco, il y a aussi au quartier Tenderloin, donc le quartier des prostituées, des junkies et des travestis, au Compton's Cafeteria. En août 1966, il y a eu une descente de policiers sous prétexte de contrôler les clients. Un officier a tenté d'attraper une drag queen, mais elle ne s'est pas laissée faire et s'est tout de suite battue contre les policiers. Et très rapidement, tout le bar a commencé à se battre avec eux. Les gérants ont donc fermé l'établissement, mais tout le monde s'est enfui. Et les policiers ont essayé de les rattraper, mais ils se sont défendus. Et le lendemain, ils ont manifesté devant l'établissement. Aucun média n'a décidé de couvrir l'affaire, car les membres reconnus ne s'identifiaient pas et ne se sont donc pas solidarisés avec eux. Il y a aussi le café de Black Cats, le 1er janvier 1967, au Nouvel An, une autre descente de police. Cette descente de police était encore plus violente. Ils ont décidé de frapper les clients pour soi-disant une conduite obscène. Il y a eu 16 arrestations, donc 13 clients et 3 employés. 2 employés ont été tabassés en dehors du bar. Et après, il y a une énorme mobilisation avec 400 personnes contre la brutalité de la police américaine. Et, cette manifestation s'est aussi joint avec les manifestations pour les Afro-Américains et les Mexicains-Américains. Et dans tout ça, 6 personnes ont été arrêtées. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont passées à Los Angeles. Au Patch Nightclub, le même scénario s'est passé. Le gérant a demandé aux clients de partir, ensuite de se mobiliser, et ils ont fait une marche, les bras pleins de fleurs, en chantant une chanson symbolique, We Shall Overcome. Et le Patch Club a dû fermer car la police faisait en sorte que ce club ne marche plus. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est aussi qu'à Los Angeles, un homosexuel a été tabassé à mort par un policier le 9 mars 1969 et que ce policier a été chargé d'homicide excusable.
Merci beaucoup. Salut!
Salut!
Du coup, toi aussi, t'as pu voir l'exposition. Est-ce qu'il y a des choses dont t'aimerais nous parler, des événements qui t'ont marqué?
J'aurais voulu parler des soulèvements de Stonewall. C'est un événement très marquant qui s'est passé en juin 1969 à Stonewall Inn. C'est un bar délabré tenu par la mafia et fréquenté par la communauté LGBTQ+, dans le quartier de Greenwich, un village à New York. Une descente de police déclenche une réaction inattendue, ce qui devait être un contrôle de routine, mais se transforme en plusieurs jours d'émeutes. Ces événements marquent un tournant majeur dans la lutte pour les droits homosexuels.
Ok, et du coup, d'après toi, pourquoi la situation dégénère ?
Contrairement aux habitudes, les clients résistent par des insultes, des jets de pièces, puis de projectiles plus importants, comme des pneus enflammés. La tension monte rapidement. Et aussi, petite anecdote, les drag queens défoncent des portes à l'aide de parcs-mètres pour s'opposer à la police. Et ensuite, on peut conclure que cette foule est grossie, des milliers de personnes s'opposent à la police, donc. À la fin, le lendemain, Martha Shelley propose une marche de protestation et une manifestation a lieu donc le 28 juin 1969. C'est une réussite et c'est comme ça qu'elle devient la première marche des fiertés à Central Park, contenant environ 2000 personnes.
Ok, merci beaucoup.
Du coup, vous avez pu plutôt observer la partie sur les droits LGBT en France. Donc, qu'est-ce que vous en avez appris ?
Donc moi j'ai pu voir la partie donc sur les droits sur la transidentité. Donc déjà la transidentité est plus reconnue comme une maladie mentale depuis seulement 2010. Également, il y a une loi qui a été mise en place en 2016 qui va empêcher donc les procédures violentes, sexistes et psychiatrisantes pour les personnes souhaitant changer d'état civil. Donc avant, il y avait des obligations de stérilisation, des obligations de subir des expertises longues, extrêmement onéreuses et la plupart du temps fondées sur des critères sexistes. La procédure de changement d'état civil effectuée au tribunal de grande instance et nécessitant le recours à un avocat, l'apport de nombreux témoignages, photos et certificats médicaux. Donc cette procédure, elle coûtait plusieurs milliers d'euros et pouvait durer plusieurs années pendant lesquelles les personnes continuaient de subir les discriminations liées à l'incohérence de leurs papiers. Il y avait également une obligation de divorcer avant le changement d'état civil qui disparaît dès le vote définitif donc de la loi mariage pour tous et pour toutes. Donc depuis novembre 2016, il est possible de changer de prénom auprès de la mairie et la procédure de changement d'état civil devant le tribunal de grande instance est simplifiée. Toutefois, la décision demeure sujette à l'appréciation subjective des instances concernées. Également, en 2019, il y a une proposition au vote de la suppression du transsexualisme comme trouble mental. Donc, il y a également une demande de remboursement des frais. Mais retirer le transsexualisme des maladies ne changera donc en rien la légitimité et maintenir le remboursement des recours au système de santé par les personnes trans. Il est important, de par le principe d'égalité, de réadapter notre dispositif législatif, notamment en insérant l'identité de genre dans les propos à caractère discriminatoire et de mettre en place une politique réelle de lutte contre la transphobie, d'aménager des conditions de détention de personnes trans, donc les dangers encourus par les personnes trans sans changement d'état civil dans les prisons, et de respecter le droit d'asile des personnes trans et appliquer les recommandations au Conseil de l'Europe.
Et moi, pour ma part, j'ai pu observer et en apprendre un peu plus sur les droits des personnes homosexuelles en France. Ils ont été longtemps réprimés, notamment sous le régime de Vichy en 1942. L'homosexualité a progressivement été reconnue et dépénalisée. À partir des années 80, des avancées importantes apparaissent, notamment avec l'égalité et la majorité sexuelle. Ça marque la fin de certaines discriminations et d'une meilleure reconnaissance. Dans les années 1990, les couples homosexuels obtiennent un premier statut avec le PACS en 1999, même si celui-ci reste tout de même incomplet par rapport au mariage. Au début des années 2000, les lois ont évolué pour mieux lutter contre les discriminations. L'orientation sexuelle est reconnue dans les lois, notamment avec la loi de 2001. Il y a donc des reconnaissances et des sanctions contre les propos homophobes et qui sont mis en place pour lutter contre ça. Enfin, une avancée majeure a lieu en 2012 et 2013 avec le projet de loi porté sous la présidence de François Hollande et défendu par Christiane Taubira, qui ouvre le mariage et l'adoption pour tous et de forts débats de société restent quand même présents.
Good vibes. Good vibes.
Radio Collège, une autre idée de la radio.